Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus pour un nouvel épisode d'Histoire des Savoirs. Aujourd'hui, Liam Gauthier et moi-même, Gabriela Corrazzo, partons à la rencontre du professeur Erwin Wolff. Le professeur Erwin Wolff est un médecin spécialiste en médecine nucléaire, en informatique médicale et en intelligence artificielle à l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi cofondateur de la chaire en IA et santé à l'ULB. Dans cet épisode d'Histoire des savoirs, on vous propose de revenir sur sa conférence Médecine et IA, donnée le 17 mars dernier sur le campus de La Plaine. Dans cette conférence, le professeur Erwin Wolff retraçait l'histoire de l'intelligence artificielle en médecine, mais aussi ses usages actuels, ses perspectives et ses limites. Alors Liam, peux-tu nous expliquer comment tout ça a commencé? Comment l'intelligence artificielle s'est développée en particulier en médecine?
Et oui Gabriela, l'histoire de l'intelligence artificielle débute en 1950. À cette époque, le mathématicien britannique Alan Turing se pose une question. Est-ce qu'une machine peut penser? Pour tenter d'y répondre, il imagine une expérience devenue célèbre, le test de Turing. Le principe est simple, on fait discuter un humain avec deux interlocuteurs sans savoir lequel est une machine. Si la machine réussit à se faire passer pour un humain, alors on peut considérer qu'elle fait preuve d'intelligence. Ce test va marquer un tournant. Il lance véritablement les premières recherches en intelligence artificielle en posant une idée révolutionnaire pour l'époque, celle que les machines pourraient un jour imiter l'intelligence humaine. Et justement, quelques années plus tard, cette idée commence à prendre forme. Joseph Weizenbaum, un informaticien germano-américain du MIT, crée ELISA en 1964. ELISA, c'est le premier programme capable de simuler une conversation humaine. C'est l'ancêtre de ChatGPT. Deux ans plus tard, c'est au tour de Shaky, un robot conçu par le Stanford Research Institute, de voir le jour. Shaky est pour sa part le premier robot mobile capable de comprendre son environnement et de suivre des instructions. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur l'utilisation de l'IA en médecine. Eh bien en médecine, l'IA se développe également à son rythme. Les années 60 marquent notamment le début de la numérisation des données médicales, l'apparition des premières bases de données, ainsi que le développement des premiers dossiers médicaux électroniques. Entre les années 70 et 2000, l'intérêt pour l'IA redescend brutalement. Les financements se faisant de plus en plus rares, le développement de l'IA tourne au ralenti. Mais malgré cette période qualifiée d'hiver de l'IA, des avancées en médecine sont réalisées. MySyn est par exemple créé au début des années 70. MySyn, c'est un système d'IA capable de diagnostiquer des infections bactériennes et de proposer des antibiotiques adaptés aux patients. Dans la même logique, quelques années plus tard, en 1986, apparaît DxPlain. Ce système va encore plus loin dans l'aide au diagnostic. À partir des symptômes du patient, il génère différentes hypothèses médicales. On peut le considérer comme une sorte d'encyclopédie médicale intelligente, capable d'orienter le raisonnement du médecin. Mais le véritable tournant arrive dans les années 2000. À partir de ce moment-là, l'IA entre dans une nouvelle ère. La puissance informatique se décuple et il devient possible de traiter des quantités massives de données, les big data. C'est à ce moment-là que le machine learning se développe. Les machines ne se contentent désormais plus de suivre des instructions simples. Elles commencent à apprendre directement à partir des données disponibles. Vient ensuite une étape encore plus avancée, le deep learning. Grâce à des systèmes inspirés du cerveau humain, appelés réseaux neuronaux, les ordinateurs sont maintenant capables de comprendre des images, du son ou du langage avec beaucoup plus de précision. Et ces avancées vont changer la donne, y compris en médecine. Mais concrètement, aujourd'hui où en est-on? Est-ce que cette intelligence artificielle est déjà présente dans nos hôpitaux ou est-ce encore surtout une promesse pour l'avenir?
Eh bien Liam, aujourd'hui, l'IA est finalement encore assez peu présente dans les hôpitaux, même si son potentiel est énorme. Une étude de la Commission européenne publiée en 2025 le montre très bien. L'IA peut réduire la charge administrative, aider au diagnostic ou encore mieux, organiser les hôpitaux. Il y a déjà quelques exemples concrets en Europe. Dans certains hôpitaux, l'IA permet déjà de trier les patients aux urgences, de réduire le temps des attentes ou encore d'identifier plus rapidement des patients pour les traitements spécifiques. Mais malgré ça, ces cas restent encore assez rares. Pourquoi ? Parce qu'il existe plusieurs freins. D'abord, les freins techniques. Les systèmes informatiques d'hôpitaux ne sont pas toujours compatibles entre eux. Et les données sont souvent difficiles à exploiter. Ensuite, des freins réglementaires. Les règles sont complexes et il y a encore beaucoup de questions, notamment sur la responsabilité en cas d'erreur. Il y a aussi des freins organisationnels. Dans certains établissements, il n'y a pas encore de vraies stratégies pour intégrer l'IA. Et les soignants ne sont pas toujours impliqués dans ces projets. Et puis, il y a un aspect plus humain, un manque de confiance, des craintes sur une possible déshumanisation des soins, ou encore des inquiétudes pour l'emploi. Résultat, même si l'IA progresse, son intégration dans la pratique médicale reste encore limitée. En Belgique aussi, quelques projets existent, mais on reste encore au stade des débuts.
Là où l'intelligence artificielle est sans doute la plus efficace et utile, c'est dans le diagnostic médical. Concrètement, l'intelligence artificielle permet de détecter certaines maladies plus tôt et souvent avec plus de précision. Elle est particulièrement efficace pour analyser des images médicales comme les scanners, les radios ou les mammographies. Là où l'œil humain peut parfois hésiter ou passer à un côté d'un détail, l'IA, elle, peut repérer des anomalies très discrètes. Par exemple, elle peut aider à détecter certains cancers, améliorer la prise en charge des patients, comme dans les cas des arrêts cardiaques ou des AVC. Elle peut ainsi aider dans des situations critiques. D'ailleurs, en soins intensifs, certaines IA sont capables d'anticiper des complications graves, comme une septicémie, parfois plusieurs heures avant que les premiers signes apparaissent. Et ça, évidemment, ça change tout. Parce que plus on agit tôt, plus on a de chances de sauver des vies. Le professeur Erwin Wolf nous parle d'un cas concret où l'IA est déjà très utilisée, les mammographies.
Vous savez bien qu'il y a un programme de dépistage du cancer du sein via les mammographies. Mammographie, c'est une radiographie du sein qui permet d'écarter, de déceler une lésion mammaire qui serait potentiellement maligne, donc suggestive d'un cancer du sein. L'idée derrière de prévenir les cancers, c'est de détecter une petite lésion et de la traiter immédiatement, de la retirer, de l'enlever, plutôt que de la laisser traîner et de la voir en fait progresser. L'idée dans le cancer, c'est vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire détecter plus tôt des lésions pour éviter la dissémination, pour éviter que la maladie évolue. On a plus de chances de s'en sortir lorsque c'est détecté plus tôt que plus tard. Bon. Eh bien, en Allemagne, ils ont réalisé une étude sur à peu près 260 000 femmes qui ont fait des mammographies. Et cette étude a montré quoi ? Elle a montré que l'IA augmentait le taux de détection du cancer du sein via ces mammographies de à peu près 18%. Alors, le but, c'était pas d'alerter, il fallait faire attention, dans un programme de prévention, il ne faut pas alerter les patientes inutilement. Il ne fallait pas que l'algorithme détecte faussement, donc il y ait des faux positifs, des lésions, finalement, qui auraient été bénignes. Parce que des lésions sur des mammographies, il en existe plein, mais ces lésions ne sont pas forcément malignes, ne représentent pas un cancer. Toutes les lésions ne sont pas cancéreuses. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait vraiment une alarme sur la moindre lésion, c'est-à-dire le logiciel détecte toutes les lésions, mais finalement sans spécificité, sans spécifier si la lésion est maligne ou bénigne. Là, le but, c'était de ne pas alerter inutilement. Et donc, il fallait simplement détecter une anomalie potentiellement maligne sur les images qui étaient classées normales par l'humain. C'est-à-dire récupérer les faux négatifs, donc les lésions qui n'auraient pas été détectées par l'œil humain, via l'IA. Donc, finalement, constituer l'IA comme filet de sécurité, mais qui ne générerait pas de diagnostic inutile. Et donc, cette IA a permis quand même de détecter, comme je vous disais, 18% de lésions en plus, c'est-à-dire ça représenterait en valeur absolue 204 cancers supplémentaires, très précocement sur ces mammographies. Ce n'était pas des gros cancers, ce n'était pas des grosses lésions, bien entendu, les humains les auraient vus. C'est comme toujours, les grosses choses, bah, l'humain les voit évidemment, mais les petites choses plus fines, là, l'IA peut nous aider à détecter des choses que l'humain peut-être ne verrait pas ou raterait, voilà. Surtout que n'oublions pas que l'IA, contrairement à l'humain, ne se fatigue pas. L'IA, 24 heures sur 24, peut regarder des radiothorax, peut regarder des mammographies, alors que l'humain, évidemment, le médecin, ses yeux se fatiguent, évidemment. Donc ça, c'est un gros avantage.
Le professeur Erwin Wolf explique que l'IA peut aller encore plus loin pour améliorer la prise en charge du patient. Il imagine à quoi pourrait ressembler une consultation chez le médecin généraliste dans le futur.
On pourrait même imaginer une IA où l'on connecte une caméra dans mon cabinet de consultation. Lorsque j'interroge la patiente, que la caméra visualise, analyse, interprète le regard de la patiente, le visage de la patiente, c'est dire, en analysant le texte, tout ce que moi, finalement, le médecin va ressentir, va percevoir. Je peux poser des questions, lui peut éventuellement poser également des questions, tel un journaliste, par exemple, comme vous, rajouter des questions supplémentaires auxquelles je n'aurais pas pensé. Par exemple, je ne sais pas si la patiente se présente pour vomissement, elle a vomi trois fois, et va me suggérer, mais est-ce qu'elle a vomi suite à un repas, suite à un repas qu'elle aurait ingéré qui n'aurait pas été bon, suggérant évidemment une intoxication alimentaire, plutôt que, si on hésite sur un diagnostic différentiel de gastro-entérite virale par exemple, eh bien, ça pourrait m'orienter avec la caméra, l'examen clinique, je palpe son ventre et je dis devant la caméra, devant le micro, l'abdomen est souple, il n'y a pas de défense, pas de rebond, le péristaltisme est ok, je ne vois pas de signe clinique qui me ferait penser à un élément de gravité, par exemple, sur une douleur abdominale. Donc, toutes ces informations pourrait très bien être encodé dans le système et surtout analysé et ensuite interprété comme dans le cerveau d'un médecin. Et à ce moment-là, l'IA me serait d'une aide en tant que deuxième avis, un second look, comme si j'avais un collègue, un confrère à côté qui m'aidait ou un assistant, vraiment un assistant médical, qui me suggère des choses, et donc, à la fin, on peut très bien, avec l'IA, comme un partenaire, considérer plusieurs diagnostics et réfléchir ensemble sur, finalement, je pense que le diagnostic le plus probable est une intoxication alimentaire et pas une gastro-entérologie virale. Une gastro-entérite virale, pardon. Mm-hmm. Eh bien, ça peut m'aider. Et on peut très bien s'imaginer que cette IA me propose, dans ce cas-là, si c'est ce diagnostic, ou si on hésite entre deux diagnostics, eh bien, il me suggère, ne faudrait-il pas réaliser un examen complémentaire pour certifier que c'est bien ce diagnostic. Par exemple, pas dans le cas du vomissement, bien sûr, mais dans d'autres cas d'une pneumonie, il va me suggérer de faire une radio de thorax, par exemple, pour voir le siège d'une pneumonie, ou bien une biologie, une prise de sang pour voir l'état inflammatoire de la patiente.
Une application qui pourrait aussi se faire pour les pathologies psychologiques. L'IA pourrait être capable d'analyser l'état physique du patient, mais elle pourrait aussi être capable de se pencher sur ses états émotionnels, ce qu'explique le professeur Erwin Wolf.
C'est un petit peu plus complexe d'interpréter l'état émotionnel de son patient. C'est plus complexe. Et ça, on le réserve plutôt habituellement aux humains. Il faut avoir une faculté humaine pour interpréter ou déceler des comportements plutôt humains. Laissons aux humains interpréter les comportements humains. Que nenni ! En réalité, on se rend compte que l'IA est beaucoup plus puissante que ça en a l'air, puisque si l'on entraîne cette IA et qu'on branche une caméra, par exemple, et qu'on lui présente des passantes, alors évidemment, l'IA, c'est pas magique, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner massivement avec une quantité massive de données, ce sont les big data. Donc imaginons une IA que l'on entraîne massivement sur un nombre presque incalculable de patients et que on fasse un entraînement supervisé, c'est-à-dire que l'on étiquette, on dit voilà l'état émotionnel de cette patiente, on lui montre des photos, des vidéos, on dit voilà cette patiente elle est plutôt dépressive, cette patiente elle est de bonne humeur, cette patiente on lui suggère, on lui l'étiquette les états émotionnels des patients et donc on va lui apprendre à catégoriser cet état émotionnel en fonction de ce qu'il perçoit en entrée. Il perçoit en entrée une photo, il perçoit en entrée une vidéo. Une vidéo sera encore mieux parce que comme ça, c'est assez dynamique. C'est comme si c'était une série temporelle de photos. Et donc, il se fixe sur le regard. Et on a des réseaux neuronaux, notamment les CNN, les réseaux neuronaux convolutifs qu'on appelle, donc qui sont là pour interpréter les images, que vous utilisez en fait tous les jours dans votre smartphone, quand vous prenez la photo de vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, en train de souffler les bougies du gâteau d'anniversaire, vous voyez que l'appareil photo peut se focusser sur la mise au point du gâteau d'anniversaire et du visage de l'enfant. Et bien pour focuser dessus, focaliser son attention sur le visage, il va reconnaître le visage du meuble qui est derrière ou du tableau familial qui est sur le mur. Eh bien, il va faire ça automatiquement. C'est une IA qui fait ça. C'est un réseau convolutif qui a été entraîné pour cela. Eh bien, pour en revenir justement à cet aspect humain, cet état émotionnel, eh bien, si la caméra est centrée sur le patient ou la patiente, eh bien, il va analyser les expressions, les mimiques, les expressions du visage qui sont tout à fait, on le sait, significatifs de l'état émotionnel de notre patient ou de notre patiente. Il y a les dires, il y aura un micro également. Si on lui donne en entrée des images, donc séquentielles avec donc la caméra, un micro avec de l'audio, où on peut tout à fait analyser, on peut l'apprendre, lui apprendre, analyser le timbre de la voix. On sait qu'une voix plutôt sanglotante va refléter un état émotionnel plutôt triste. Une voix plutôt joyeuse, plutôt aiguë, va refléter un état émotionnel plutôt heureux. Eh bien, nous avons appris également, notre cerveau a appris par notre expérience et notre sens commun, à reconnaître ces états émotionnels. Eh bien, l'IA peut tout à fait reconnaître ces états émotionnels. Et donc, l'IA, ça vient à la question, l'IA peut-elle être empathique finalement, comprendre nos états émotionnels? Alors, identifier nos états émotionnels, oui, identifier, comme je vous dis, par la voix, par l'expression du visage, donc par les dires de la patiente, effectivement, je suis triste, par exemple, je dors beaucoup, mais j'ai des troubles du sommeil, et j'ai beau dormir, je me sens toujours fatigué. Bien, peut-être que cela suggérerait un trouble plutôt dépressif. Et donc, on pourrait très bien imaginer, effectivement, en psychiatrie, on pourrait l'utiliser, ou je m'agite beaucoup, il y a certaines fois, par exemple dans les troubles maniaco-dépressifs, pendant tout un temps, pendant une semaine, je suis extrêmement agité, même je vais courir à 2h du matin, et je n'arrive pas à dormir, je suis tout à fait exalté, mais après, deux semaines après, je me couche dans mon lit et je dors pendant une semaine. Les troubles maniaco-dépressifs. Et donc, on pourrait très bien imaginer que ces IA permettent de nous aider dans le diagnostic, et même diagnostic relativement humain, de comportement, et de analyser finalement nos sentiments qui sont vraiment humains. Donc l'IA pourrait très bien identifier et catégoriser, classifier nos affects, donc nos comportements humains. Elle apprend ça. Tout à fait.
Allez, avant de vous parler des autres plus-values offertes par l'IA dans la médecine, nous vous proposons d'écouter une musique de Grand Corps Malade et d'Anna Kova, Espoir Adapté, une musique qui parle de résilience et de seconde chance, qui fait écho à ces moments où la maladie bouleverse tout, mais où l'on continue malgré tout à avancer, à s'adapter et à garder espoir.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. C'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. C'est cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
I've been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost, and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe.
Trouver un espoir sans oublier ceux qui saignent. Car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
C'était Grand Corps Malade et Anna Nova. Vous êtes toujours sur Radio Campus dans l'émission Histoire des Savoirs, consacrée aujourd'hui au professeur Erwin Wolff. Et après avoir vu comment l'IA transforme déjà le diagnostic médical, on peut aller encore un peu plus loin. Parce qu'au-delà du diagnostic, elle est aussi déjà très utile dans son branche toute spécifique de la médecine, la santé publique. Concrètement, l'IA peut analyser d'énormes quantités de données, bien plus qu'un être humain. Et grâce à ça, elle peut repérer des tendances dans la population. Par exemple, elle peut suivre l'évolution de certaines maladies et même anticiper des épidémies. Résultat, on peut agir plus tôt, mettre en place des mesures de prévention plus rapidement et surtout, mieux cibler les actions. Mais peut-être encore plus important, l'IA ouvre la voie à une médecine beaucoup plus personnalisée. Aujourd'hui, on applique souvent les mêmes traitements à tous les patients. Demain, grâce à l'IA, on pourrait adapter les soins à chaque personne. En analysant les données d'un patient, l'IA pourrait anticiper comment il va réagir à un traitement, prévoir l'évolution de sa maladie et proposer une prise en charge vraiment sur mesure. Enfin, dans le futur, l'IA pourrait aussi transformer l'organisation même des hôpitaux. Elle pourrait par exemple prévoir le nombre de patients à venir, mieux gérer les lits ou répartir plus efficacement les personnels et les ressources. Elle pourrait aussi automatiser toute une série de tâches administratives, comme les rendez-vous, la facturation ou les dossiers médicaux, ce qui ferait gagner un temps précieux aux soignants. Et c'est ça justement ce qu'on nous explique le professeur Erwin Wolf avec l'exemple des Scribe AI, des assistants pas tout à fait comme les autres.
L'IA, donc domaine extrêmement technique, on nous dit souvent, je travaille en imagerie médicale, en médecine nucléaire, on nous dit que la médecine est souvent trop technique. Et de rajouter de la technique dans la technique, ça ne va que techniciser toute cette médecine et déshumaniser. Mais paradoxalement, pas tant que ça. L'IA peut être un outil qui pourrait rendre la médecine plus humaine en libérant les soignants d'un certain poids administratif. On a certaines applications qui existent et qui sont déjà d'application, sont les Scribe IA. Ce sont des systèmes d'écoute discrètes, on ne les voit pas, c'est un petit micro qui est posé sur la table, qui rédige automatiquement les notes médicales durant la consultation. Vous êtes chez votre médecin, votre médecin naturellement vous pose des questions, vous examine, et il y a une sorte de petit micro mouchard qui est là, qui écoute toute votre conversation, qui reste tout à fait privée et personnelle bien entendu, qui rentre dans le cadre de la confidentialité médicale. Cette confidentialité est extrêmement importante pour la confiance que l'on a en notre médecin notamment. Mais ce petit micro-mouchard, il va servir à analyser tout ce qui est dit lors de la consultation par le médecin et par le patient, mais non seulement analyser, mais également résumer en pouvant finalement générer une note de synthèse de cette consultation. Cette note de synthèse qui, d'habitude, normalement, est plutôt une charge administrative. Une fois que la consultation est terminée, nous, médecins, on rédige notre note de consultation, une petite note résumant tout ce qu'on a dit sur notre petit brouillon. On rédige généralement un petit draft, moi encore à la main, avec mon stylo, je rédige une petite note, je mets les points essentiels, et puis je tape sur mon ordinateur, sur mon traitement de texte, une note succincte. Bien là, l'IA peut nous aider, et nous aide déjà, à rédiger des notes complètes pour bien marquer et bien répertorier cette consultation. Et donc, ils ont essayé, donc ce Scribe IA, et leur impact s'est révélé massif. Puisque cette tâche administrative assez lourde pour le médecin qui nous prend du temps, eh bien, cette IA a permis de réduire le burn-out, donc l'épuisement professionnel des médecins, de plus de 20%. De plus de 20% en termes de risque donc de burn-out, faisant chuter un taux absolu de 52% à 39%. Ça, c'est 13% en absolu, mais c'était le odds ratio qui était de 20%. Et donc, en allégeant cette charge cognitive, l'IA permet finalement au médecin de un peu quitter son écran des yeux. On avait les yeux rivés sur notre écran, toujours en disant « il faut que je fasse la note, attendez, je vais en même temps rédiger la note », pour enfin se concentrer plus à regarder son patient, se concentrer à l'écoute, se concentrer sur son état émotionnel, et finalement renouer avec l'essence même du soin. Donc, l'IA ne rend pas la médecine plus technique, mais l'IA peut rendre la médecine plus humaine.
Aujourd'hui, toute l'industrie technologique mise énormément sur les LLM, les grands modèles de langage comme ChatGPT. Enfin, 2025, Ian LeCun, ancien directeur d'IA chez Meta, remet en question les LLM. Selon lui, ces modèles ont une limite. Ils manipulent des mots et des statistiques de langage, mais ne comprennent pas vraiment ce qu'ils produisent. D'où une question. Est-ce qu'on arrive au plafond des verres technologiques ou est-ce qu'il faut changer complètement la direction? Eh bien, pour Ian LeCun, il faut changer la direction. C'est pourquoi il promeut le World Model, un modèle de monde, une IA qui comprenne et qui simule la réalité. Alors, dit comme ça, ça peut paraître abstrait. Liam, explique-nous plus encore comment ces World Model pourraient changer une médecine.
Eh bien, l'idée, Gabriella, elle est en fait assez simple. Jusqu'ici, la plupart des IA analysent des données et donnent des réponses ou des probabilités. Les World Models, eux, iraient plus loin. Ils chercheraient à comprendre la réalité physique. En médecine, cela voudrait dire qu'ils pourraient réellement comprendre comment fonctionne le corps humain. En gros, ils tenteraient de reproduire les liens de cause à effet, par exemple, comprendre ce qui se passe dans l'organisme quand on donne un traitement. Et ça pourrait changer beaucoup de choses. Parce que concrètement, ces systèmes pourraient permettre de simuler un patient, un peu comme un patient virtuel. Le médecin pourrait alors tester un traitement sans même l'administrer pour de vrai. Par exemple, on pourrait anticiper comment un médicament va agir sur une personne précise, voir s'il va fonctionner, s'il y a des risques, et choisir la meilleure option avant même de commencer. On passerait donc d'une médecine basée sur des statistiques générales à une médecine beaucoup plus personnalisée et prédictive. Autre point important, ces IA pourraient aussi aider les médecins à prendre des décisions dans des situations très complexes. Aujourd'hui, dans certains cas difficiles, plusieurs spécialistes doivent se réunir pour croiser leurs avis. Demain, une IA pourrait analyser toutes les données du patient, les images médicales, les analyses, les antécédents, et proposer une vision d'ensemble beaucoup plus claire. Elle pourrait aussi faire le tri dans une énorme quantité d'informations, parce qu'en médecine, il y a souvent trop de données, et des données pas toujours faciles à interpréter. L'IA pourrait aider à repérer ce qui est vraiment important et éviter de passer à côté d'un détail crucial. Enfin, ces modèles pourraient se rapprocher encore davantage du raisonnement humain. Pas juste donner une réponse, mais comprendre les conséquences d'une décision. En résumé, on passerait d'une IA qui analyse à une IA qui comprend et qui simule. Et ça pourrait transformer profondément la médecine en la rendant plus précise, plus personnalisée et plus anticipative.
On vous laisse maintenant découvrir un morceau de Novael X, un artiste rock québécois un peu particulier, puisque c'est un chanteur entièrement virtuel, créé grâce à l'intelligence artificielle. On écoute ensemble « Ce qui porte le monde », l'un de ses premiers titres, sorti il y a 5 mois.
Il marche dans le froid, quand la ville dort encore. Le regard droit devant, qui traverse les remords. Le cœur reste debout, même quand la rage dévore. Il porte la tempête pendant que le monde s'endort. On les juge sans savoir, on les filme au lieu de voir. Ceux qui chancellent derrière la voix, l'humain qu'on oublie chaque fois. Sur leurs bottes et le poids des insultes. ce sont ceux qui tiennent debout quand la peur les dévore, ceux qui protègent encore même quand le monde les ignore. Leur cœur se bat en silence quand la ville se referme, et même quand la nuit les brise, ils se relèvent quand même. Ils se relèvent quand même.
C'était Nova LX et vous êtes toujours sur Radio Campus, dans l'émission Histoire des savoirs. Après avoir abordé l'histoire, les présents et le futur de l'IA avec le professeur Erwin Wolf, nous en abordons désormais les limites. Car si l'intelligence artificielle ouvre des perspectives très prometteuses en médecine, elle comporte aussi certains risques.
Critique de la surconfiance envers l'IA, comme je disais tout à l'heure, ben, nos patients, il y a des études qui ont été menées sur ces patients et qui montrent que beaucoup de patients font autant confiance à des réponses médicales générées par une IA qu'à celles de leur médecin. Et ce, même lorsque l'IA se trompe. On sait, certains patients, comme certains étudiants utilisent ChatGPT pour se renseigner, ben, certains patients ont envie de se renseigner avant de consulter leur médecin sur leur pathologie. Ils disent, tiens, j'ai tel signe, voilà, j'ai vomi ou je tousse. Tiens, j'aimerais bien savoir quel est le diagnostic le plus probable et que me préconise cette IA. ChatGPT, on va noter ça, voilà. Alors, ce n'est pas une bonne idée. Ça peut vous donner certaines informations, certaines fois qui sont totalement fausses, parce que, évidemment, le ChatGPT en question, ou d'autres LLM, LLM, l'acronyme de Large Language Model, il y en a d'autres, la Gemini, etc., Perplexity, eh bien, tous ces modèles de langage ne vous connaissent absolument pas, déjà, ne vous examinent pas, ne connaissent pas votre état de santé, et ne comprennent pas votre état de santé. Attention, ces LLM simulent une intelligence, mais n'est absolument pas intelligente. Intelligence, ça signifierait de vous comprendre, de comprendre. Il y a un raisonnement médical et de vous comprendre. Il ne comprend rien. C'est un... on ne va pas dire que les LLM, c'est juste un perroquet statistique. Hugues Bersigny vous le répétera. C'est effectivement un peu plus fin. Il y a ce phénomène d'embedding, de ce phénomène de... Chaque mot, chaque phrase, les tokens, en fait, sont plongés dans un vecteur. Donc, si vous voulez, quand je parle de la reine d'Angleterre ou la reine d'Espagne, le dénominateur commun, ça va être la reine. Et donc, il y a quand même un vecteur qui se dirige vers la reine, et donc, il y a certaines similitudes. Donc, il y a une certaine compréhension de phrases, compréhension de mots. Néanmoins, on n'aura jamais de compréhension réelle du patient. Eh bien, j'en reviens à ce que je disais à notre étude. Donc, l'étude a montré que certains patients, effectivement, font plus confiance à une IA qu'à leur médecin. Pourquoi, on peut s'interroger? Parce que souvent, donc les auteurs ont analysé, souvent, l'IA, comme tout chatbot, s'exprime de manière très fluide et très convaincante. Et les gens ont tendance à la croire. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que ils jugent souvent les réponses de l'IA comme plus valides et plus dignes de confiance que celles des médecins, même quand l'IA se trompe complètement. C'est la raison pour laquelle l'IA doit être clairement encadrée et jamais considérée comme un avis médical, et donc toujours utilisée avec prudence. Donc ça, c'est le point de vue des patients. Alors, il y a une autre étude du point de vue des médecins qui est aussi intéressante. On peut se dire que les médecins, tout de même... vu leur niveau de formation et leur niveau normalement critique et leur savoir, eh bien, seront plus critiques à l'égard de l'intelligence artificielle que la population générale ou bien que nos patients. pas forcément, en tout cas, cette réponse doit être nuancée, pas pour tout le monde. Notamment, on sait qu'il y a le biais d'automatisation. C'est quoi ça ? Il y a une étude radiologique, encore une fois, de mammographie, qui a été bien mise en évidence. Alors pourquoi les mammographies ? Parce qu'on fait beaucoup de mammographies dans la prévention. Il y a beaucoup de données sur les mammographies. Eh bien, les auteurs de cette étude ont analysé comment trois groupes de radiologues réagissaient face à une IA qui proposait systématiquement des diagnostics de mammographie incorrects. Alors on avait un groupe de médecins radiologues inexpérimentés, des jeunes radiologues, voire des radiologues en formation, des moyennement expérimentés et des seniors, plus expérimentés. L'objectif de cette étude, c'était de mesurer jusqu'à quel point l'autorité de la machine pouvait influencer le jugement humain, même quand elle se trompe complètement. Eh bien, les résultats ont été absolument révélateurs. Si les médecins seniors résistent mieux aux suggestions erronées, on voyait bien qu'ils résistaient. Et ils disent, mais non, mais attends, taratata, ça c'est faux, ça. Ce n'est pas une lésion maligne. L'IA me dit que c'est une lésion maligne. C'est faux, ce n'est pas une lésion maligne. Je le sais parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai appris. OK ? Eh bien, si ces médecins seniors, justement, résistaient mieux aux suggestions erronées que les jeunes, bah, parce que les jeunes, on a remarqué, bah, ils se laissaient souvent convaincre par l'IA. À l'inverse, on a essayé, dans l'étude, de faire le contraire, c'est-à-dire, on a programmé la machine pour donner, cette fois-ci, que la réponse correcte. Toujours, l'IA donnait la bonne réponse. Et dans la performance de donner la bonne réponse à ces différents médecins, plus ou moins expérimentés, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué qu'elle remontait la performance des jeunes médecins à un niveau proche de celui des experts. Donc ça prouve quoi ? Ça prouve que l'IA, ça peut être un tuteur formidable. Il peut nous aider, même les jeunes, à faire des diagnostics, à les aider dans leurs tâches médicales, pas que administratives. Mais attention aussi aux pièges dangereux que si l'IA se trompe, ne pas forcément la croire de façon aveugle. Et donc, il faut toujours que le soignant ait un esprit critique suffisamment aiguisé, donc avec d'expérience et avec du savoir, pour ne pas, je dirais, tomber dans le piège. Ça, c'est très important.
Eh bien, dans cet épisode d'Histoire des savoirs, on a vu ensemble comment l'intelligence artificielle est née, comment elle se développe et surtout comment elle est déjà en train de transformer doucement mais profondément le monde de la santé, du diagnostic jusqu'à l'organisation des hôpitaux, en passant pour la recherche et la médecine de demain. Mais on l'a aussi compris, l'IA n'est pas une solution magique. Elle soulève des questions importantes, des limites et des défis encore loin d'être totalement résolus. Alors Liam, est-ce que tu es prêt à te faire ausculter par un robot chez ton médecin ?
Bah oui, pourquoi pas, ce serait un peu bizarre, mais bon, c'est le progrès après tout.
Oui, c'est le progrès. Un grand merci au professeur Erwin Wolf pour son temps, ses explications et pour avoir partagé avec nous son regard sur ces évolutions majeures. Un grand merci aussi à Thomas Gieseling, à la technique. Merci Liam.
Merci à toi, Gabriela.
Merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Radio Campus pour un nouvel épisode d'Histoire des savoirs. Passez une belle journée, à très vite.